La philosophie, l'art et le travail, les mathématiques, c'est la règle de trois de Pierre-Michel Menger. Il découvre la musique par hasard. Né en 1953 à Forbach en Moselle, il a une dizaine d'années quand un ami de la famille lui lègue tous ses disques. Je n'en avais jamais entendu avant, ça a été une révélation foudroyante. Passionné de musique classique puis de philosophie, il intègre une prépa littéraire au lycée Fustal de Coulanges à Strasbourg. Là, il est très marqué par son prof de philo, André Tuboeuf, autre grand amateur de classique. Tuboeuf a notamment publié un livre sur les divas qui ont redonné vigueur à l'opéra à partir des années 50.
Ces sept sopranos ont combattu pendant 25 ans, pendant toute cette traversée du désert, et arrivent, fatiguées peut-être, en fin de course elles-mêmes, mais arrivent tout à fait victorieuses, et avec nous tous à leurs genoux.
Après Normale Sup, il se spécialise dans la sociologie de l'art et du travail. Chercheur au CNRS, il intervient dans les médias lorsqu'il s'agit notamment de commenter l'importance du merchandising à l'occasion de l'exposition Cézanne de 1995 au Grand Palais de Paris.
On se paye des succès d'années, des objets partiels, dirait le psychanalyste, de l'œuvre en quelque sorte, qui en sont certes une démarcation très lointaine, mais en même temps qui, de proche en proche, participent de la grâce, en quelque sorte, de l'œuvre d'art.
Auteur de plusieurs essais, Portrait de l'artiste en travailleur, Le travail créateur s'accomplir dans l'incertain, en 2003, il s'intéresse aux intermittents du spectacle embauchés par les sociétés de production.
Ils veulent pouvoir embaucher et débaucher autant que de besoin pour avoir les équipes les plus efficaces possibles, pour avoir des petits personnels substituables quand il faut.
Directeur d'études à l'EHESS, professeur au Collège de France, il se penche encore sur de nombreux sujets, la concurrence, les inégalités ou le talent. Aujourd'hui, il se plonge dans le monde des mathématiques. Selon lui, la valeur des maths est en hausse dans l'économie de la connaissance et de l'innovation. Les défis actuels liés au climat, à l'énergie ou à l'intelligence artificielle mobilisent des savoirs et des tournures d'esprit mathématiques.
Oui, on va en parler des maths, mais quand même, vous avez donné au Collège de France des cours sur le talent, Pierre-Michel Menger.
Oui.
Oui. Pourquoi ? Pourquoi autour du talent ? Pas longtemps, je crois, 2 ans de cours.
Absolument. C'est une sémantique qui s'est répandue dans le monde entier. C'est un langage quasi universel. Le même mot se dit en 20 langues différentes. Et on part de l'histoire profonde, puisque la parabole des talents est une chose un peu incompréhensible dans l'Évangile. Donner à ceux qui ont déjà et enlever à ceux qui n'ont rien, c'est assez spécial, il faut dire, dans le monde, dans l'Évangile. Mais cette sémantique s'est diffusée maintenant. On ne parle plus de ressources humaines, on parle de talents. Il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Et on applique ça à tout le monde. Mais quand on cherche à le définir, c'est impossible. Chaque fois, ça commence par là. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on l'emploie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation où on ne peut pas définir un terme qu'on emploie partout ? Mm-hmm. C'est un casse-tête et j'ai voulu l'explorer.
Et vous aimez beaucoup les casse-têtes, en plus.
Ah, j'adore ça.
Et alors, vous avez fait remarquer à vos élèves que le mot talent figure dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Absolument.
Mais pourquoi ?
Les carrières ouvertes à tous les talents, c'était une manière de dire... Maintenant, la société des privilèges de naissance, c'est fini. Vous serez en récompensé et vous serez promu là où vous aurez exprimé la totalité de vos talents et de vos possibilités. Voilà, ça c'était l'article 6 des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et citoyenne. C'était donc un vocabulaire offensif et révolutionnaire. C'est ça qui est étonnant. Après, on peut en parler autrement, on peut insister sur des mécanismes d'inégalité, mais il y a des endroits où on admire le talent sans limite. Les sports, la science, etc. Quand on entre dans le monde de l'entreprise, c'est un peu plus compliqué.
On va en parler tout à l'heure avec Anna autour de l'intelligence artificielle, mais quand même encore une question autour de l'oreille spéculative. Qu'est-ce que c'est ? Non mais attendez, on a envie de vous poser tellement de milliers de questions. C'est quoi l'oreille spéculative ?
C'était une citation de Hegel, le philosophe Hegel. C'était à propos de la musique et de la manière dont l'oreille doit se débrouiller pour déchiffrer des messages complexes. La musique, c'est un art assez sophistiqué et en même temps un art extraordinairement sensible. Et donc, je voulais associer le sensible et l'intelligible dans cette expression que j'avais trouvée magnifique.
Revenons à ce livre, Le monde des mathématiques qui paraît au seuil. C'est un livre, c'est quoi ? C'est un portrait sociologique des mathématiciens d'aujourd'hui. Vous avez voulu donner cette orientation ?
C'est une exploration d'un monde à la fois prestigieux, exigeant, intimidant et en même temps dont il faut déchiffrer l'ensemble des coordonnées. Comment est-ce qu'on y entre ? Comment est-ce qu'on exerce les mathématiques ? Est-ce qu'elles sont un langage universel qui néanmoins a des origines ? Qu'est-ce que veut dire parler mathématiques grecques ? Est-ce que ça a un sens ou ça n'en a pas ? Qu'est-ce que c'est qu'entrer dans une classe préparatoire, dans des filières sélectives qui sont à la fois une épreuve rude et une voie d'entrée possible ? Comment comprendre l'écart croissant entre une élite mathématique française qui fait la gloire du pays et de l'autre côté un problème terrible de décrochage ?
Eh bien justement,
Et... Alors, on a 13 médailles Phil françaises, c'est-à-dire qu'on a des génies en maths.
Hein, oui, absolument.
Et alors, on est très mauvais dans les classements.
Voilà, on est mauvais.
À l'école.
Alors, oui. L'école a décroché parce qu'on a probablement, c'est un ensemble de mécanismes qui sont, quelle est la qualité des programmes, les réformes se sont empilées, on ne sait pas expérimenter vraiment sur les méthodes qui fonctionnent. Quand Singapour a voulu relever le niveau des mathématiques, ils ont été chercher partout dans le monde ce qui fonctionnait et ils l'ont appliqué. Nous, on a un degré d'inertie assez fort et on a un rapport à l'effort que représente apprendre les mathématiques, c'est un effort et cet effort-là, il faut le cultiver. J'appelle ça socialiser les élèves à l'effort. Ça n'est pas si simple, mais c'est extraordinairement productif en termes de résultats. J'ai montré dans un de mes cours que les enfants qui avaient un sens de l'orientation de leurs études à long terme, autrement dit, je ne travaille pas simplement pour avoir une petite note tout de suite, mais je veux avoir un effort qui dure longtemps, ils s'en sortent infiniment mieux que ceux qui pensent que c'est quelque chose qui est pénible et qu'il faut s'en débarrasser au plus vite.
Comment les rendre désirables, les mathématiques? Parce que les mathématiques impressionnent, semblent hermétiques. Beaucoup de gens disent « je ne suis pas fait pour ça » d'ailleurs. Comment on les rend désirables?
On est en train de travailler sur un sujet magnifique qui est les concours de mathématiques pour les élèves. C'est rendre ludique. Ça, c'est une propriété fantastique qu'on peut appliquer aux mathématiques. C'est comme dans le sport ou dans d'autres choses. Vous pouvez rendre à la fois ludique et extrêmement efficace en termes d'apprentissage, la pratique des mathématiques à travers ça. Mais il vous faut des copains qui travaillent avec vous, un goût de la compétition.
Des copines et des copines. Il n'y a pas assez de femmes. Non, il n'y a pas de femmes.
C'est un grand sujet.
C'est un énorme sujet.
Et un coach. Le professeur devient un coach. Et là, professeur devient coach. Voilà. Tout d'un coup, ça change l'état d'esprit. Ouais. Et vous apprenez. Je vous assure que si je vous passe les épreuves du concours kangourou de 6e, vous verrez que ce n'est pas si simple. Okay. Et pourtant, les gamins, ils ont des scores mirobolants. Bon. C'est incroyable. Alors, on réussit plus ou moins, etc., etc. Mais on apprend à travailler. Et c'est toujours la même histoire. Quand on bosse, on y arrive. On bosse, on y arrive. Il y a une récompense, mais elle n'est pas immédiate.
Moi, j'ai bossé en maths et je n'ai pas arrivé vraiment.
Ouais. Bon, ça n'est pas perdu. Ça n'est pas perdu.
Je vais consulter votre dossier et je vais vous dire ça aurait pu bifurquer dans le bon sens.
Et la 14e médaille Fields, elle est là.
Elle est
Attendant, dans quelques années, ça, on va évoquer avec vous et avec Anna des mathématiciens français qui sont spécialistes de l'intelligence artificielle et qui, eux, sont très désirables et que tout le monde s'arrache, non?
Mais oui, parce que ce n'est pas forcément intuitif, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a des maths et donc, effectivement, les géants de la tech s'arrachent, nos mathématiciens français. Grâce à quoi? Grâce au MVA, c'est le Master Mathématiques Vision Apprentissage de l'ENS Paris-Saclay, qu'on surnomme même l'ENA de l'intelligence artificielle. Et ils forment chaque année 200 étudiants qui sont sortis de l'université de Polytechnique ou de Centrale Supélec avec un bagage très très solide en mathématiques. Pourquoi? Parce que prenez un algorithme comme ChatGPT ou Midjourney, et bien derrière, la base, le fondement, ce sont les mathématiques et les mathématiciens. Et d'ailleurs, le directeur du master le confirme, ce n'est pas l'algorithme qui est intelligent, mais tous les scientifiques qui ont travaillé dessus depuis des années. Alors une fois leur diplôme en poche, eh bien ces jeunes chercheurs vont penser et concevoir les algorithmes nouvelle génération, a priori à l'étranger. Et ce qui semble les intéresser la plupart du temps, ce sont toutes les applications possibles dans le domaine de la santé ou bien la modélisation de nouveaux réseaux d'énergie. Pierre-Michel Menguer, vous, comment vous expliquez qu'on soit si fort en France pour avoir des mathématiciens spécialisés dans l'intelligence artificielle?
C'est un tournant qui a été pris dans les années 90 et qui bénéficiait de cette production particulière que nous avons en France d'excellents mathématiciens qui passent par les classes préparatoires, c'est-à-dire par un contrat d'effort. Une classe préparatoire, c'est un contrat d'effort et on apprend beaucoup de choses. On n'apprend pas encore à être chercheur, mais ensuite, on est dans un environnement de recherche. Saclay ou l'École normale supérieure de la rue d'Ulm sont des magnifiques pépinières de talents mathématiques. Moi, j'ai travaillé sur les maths parce que j'ai fréquenté au Collège de France des matheux. On m'apprenait qu'est-ce que c'est. Celui-là, il a gagné les Olympiades de mathématiques. Il a explosé les scores. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que les Olympiades de mathématiques? On approche de l'année des Jeux Olympiques. C'est génial d'aller regarder ce que c'est que ces Olympiades de mathématiques. Et vous voyez tous les pays qui sont dedans. Donc, je reviens à votre question. Oui. C'est une C'est un domaine qui a d'ailleurs tout à fait intrigué les mathématiciens parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes comment la machine et les algorithmes apprennent aussi vite. Stéphane Mallat, qui a fait une présentation magnifique lors du colloque de rentrée qu'on a organisé au Collège de France, je vous invite à aller regarder parce que tout est en ligne. Hein. C'est le Collège de France, c'est le bien public.
Il est mesmérisé, il va regarder c'est dès que l'émission est terminée.
On va le convertir.
Et E égale MC2, mon amour, c'est quoi? C'est les mathématiques.
C'est les mathématiques. Mais c'est un enjeu démocratique de socialiser davantage aux mathématiques parce qu'on ne peut pas laisser le fossé s'installer entre les producteurs d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée et les autres qui sont là à dire mais on ne comprend rien, on va se laisser embarquer dans l'affaire et on ne saura pas, on ne maîtrisera pas notre destin.
Alors on regarde les Olympiades.